Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Barthaz.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Barthaz.
En direct.
Sur le 107FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Radio Barthaz. Bienvenue sur le 107FM. Nous sommes le mercredi 5 janvier. Il est 8h30. Dans cette matinale, c'est la première de l'année. Nous sommes avec Madame le maire de Florac, Flore Théron. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là en cette période un petit peu compliquée. Alors, Christian Rameau, qui est votre adjoint, aurait dû être avec nous. Et malheureusement, il est qu'à contact, hein, le mal de ces deux dernières années. Alors, en tout cas, voilà, merci vraiment beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on le salue. Flore, vous étiez venue en juin 2020.
Oui.
L'idée reste la même, c'est de se voir tous les ans, même si l'année dernière, c'était un petit peu compliqué, évidemment. Mais pour voir un peu quels sont les projets de la ville, ce qui a été fait et aussi... ce qui va être fait, etc. Tous les projets. Et évidemment, cette année, les sujets aussi un peu plus polémiques. Hein, on va parler de la MSAP, notamment ce sujet qui fait beaucoup parler, les Floraquois. Bref, vous l'aurez compris, auditeurs, auditrices, on va prendre le temps de balayer tous les sujets au maximum. Peut-être qu'on va en oublier, voilà. Mais si vous avez des questions, des remarques, auditeurs, auditrices, sachez que vous avez la page Facebook de Radio Barthaz, le site de Radio Barthaz, radiobarthaz.net, ou un mail contact@radiobarthaz.net. Notre cher Véro est juste à côté pour nous faire passer vos questions, vos remarques ici en studio. Merci Véro. À la technique, le technicien, salut Corto.
Eh ben, me voici, me voilà.
bonjour
à tous.
Les vacances étaient bonnes ?
Elles étaient fort bonnes, hein, comme les fêtes, quoi, bien manger, bien
plus. Yes, re-bienvenue à la maison. Alors, cette intro est beaucoup trop longue, mais avant de passer à la suite, je remercie François qui m'a aidé à la préparation de cette interview, qui aurait aimé être présent, mais qui bosse. Je te salue François, c'est toujours un plaisir de bosser avec toi. Comme dirait Véro, tu reviens quand tu veux dans notre conseil d'administration. Corto, juste avant de passer à l'édito, est-ce que tu peux couper la musique, s'il te plaît, Flore ? Peut-être qu'avant de commencer cette émission, vous voulez dire quelques mots pour cette année qui commence à celles et ceux qui nous écoutent.
Bien volontiers, surtout que la situation sanitaire qui est loin de s'être améliorée nous prive de la possibilité d'organiser les vœux de la municipalité. Et cette année, nous avions un projet qui était de mettre à l'honneur les associations, car nous pensons que les associations qui sont fort nombreuses sur notre territoire procèdent vraiment de la vie et de l'animation de notre commune. Et nous aurions souhaité faire une cérémonie où elles étaient à la fois à l'honneur, mais aussi un peu à l'origine de cette soirée. Et malheureusement, nous ne le ferons pas. C'est pourquoi je tiens à présenter, bien sûr, en mon nom personnel, mais surtout au nom de toute notre équipe municipale, tous les vœux pour cette année qui, malheureusement, n'a pas débuté sous les meilleurs auspices, en tout cas au plan sanitaire. Et nous espérons, comme tout le monde certainement, que bientôt nous pourrons retrouver une vie normale, une vie où la convivialité pourra à nouveau être à l'honneur. Et je crois que nous avons toujours démontré à Florac que la convivialité fait partie de la vie et fait partie surtout des traditions floracoises. Et j'espère que nous pourrons renouer et qu'à chacun, ce petit espoir puisse nous rassembler bientôt.
Pourvu que ce virus nous lâche, c'est clair. On fera une pause musicale dans cette matinale et en guise d'édito, Corto, si tu veux bien, une moitié bonne nouvelle.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthaz.
Eh ouais, on vous en a parlé sur cette antenne. Moussa Tambadou est un jeune Malien qui est arrivé en France. Il a été pris, il était mineur quand il est arrivé en France. Il a été pris en charge par le département de la Lozère en mars 2019. La blanchisserie Le Lavoir des Causses l'a accueilli comme apprenti au sein de son équipe depuis le 1er septembre 2020 et lui propose un CDI à la fin de sa formation. Il a des potes, son patron l'aime bien. Bref, tout est normalement normal pourtant. Et maintenant qu'il est majeur, la préfecture de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a remis une OQTF, une obligation de quitter le territoire français la semaine dernière et l'a assigné à résidence avant la semaine dernière de décider de l'arrêter et de l'envoyer au centre de rétention de Toulouse. La bonne nouvelle, c'est qu'il a été libéré fin de semaine dernière, qu'il a pu rentrer chez lui. La mauvaise, c'est qu'il a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête puisqu'il est toujours menacé d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'y a évidemment que la préfecture de Lozère qui peut décider de la lever. On vous tiendra au courant. Flore, on a vu qu'avec plusieurs élus lausériens, vous êtes mobilisés, notamment pour la famille Caldani ou pour Ali, ici à Florac, c'était l'année dernière. Il y avait eu du monde pour eux. Les obligations de quitter le territoire français ont fortement augmenté ces dernières années en Lozère. Est-ce que vous avez des rapports à ce sujet avec la préfecture et la sous-préfecture? Et est-ce que les élus, de manière générale, peuvent peser contre ces fameuses OQTF?
Que nous ayons des relations sur ce sujet avec les autorités de l'État, préfecture, sous-préfecture, non, pas forcément. C'est vrai que vous évoquez un cas qui n'est pas sur notre territoire, mais qui nous touche, parce que c'est vrai qu'un jeune qui était mineur, et c'est pour ça qu'il était pris en charge par le département, et qui s'insère et qui est dans un processus d'intégration, le voir comme cela amené dans un centre de rétention, ça fait quand même mal au cœur, parce que pour moi c'est un gamin. Compte tenu de mon âge, j'estime que c'est un gamin, et ça fait vraiment peine de voir ce genre de situation. Et au-delà de l'émotion que ça peut susciter, je dirais que l'INSEE vient de nous donner les chiffres de population de la Lozère qui malheureusement ne progresse pas. Même s'il y a une toute petite embellie sur Mende, mais c'est très fugace. Et lorsque je vois que nous sommes dans une telle situation et que nous refusons pour des lois qui existent, bien sûr, je ne nie pas que ce sont des lois qui sont à l'origine de cette situation, mais je crois que toute loi, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, et puis il y a l'application de la loi, et puis peut-être que des fois, le cœur et la raison aussi peut procéder à des aménagements. Et pour ce jeune, pour ce petit gamin, comme je l'appelle, j'espère qu'il restera parmi nous et que aussi il pourra mener la vie qu'il souhaite mener avec nous.
C'est ça, il y a une vraie différence, puisque le département, les élus en général en Lozère, œuvrent et militent pour qu'il y ait des arrivants. Comme vous le dites, ça évolue pas. Et pourtant, la préfecture, la sous-préfecture fait l'inverse. Est-ce qu'il n'y a pas moyen à un moment de s'entendre tous ensemble?
Alors, je crois que chacun est dans son rôle. Hein. L'État est dans son rôle. L'État, préfecture, sous-préfecture, applique la loi. C'est le rôle de tout fonctionnaire d'appliquer la loi. Donc, je me garderai bien de donner ni conseil ni commentaire. Voilà.
Ce qui est sûr, auditeurs et auditrices, c'est que les mobilisations payent. Et ça, c'est toujours bien donc, de se mobiliser, élu ou pas d'ailleurs. Alors, il y a beaucoup de choses dont nous avons à parler. C'est tant mieux, puisqu'il s'en passe des choses à Florac, même si la situation est compliquée. Comment s'est passée l'année écoulée pour vous? Alors, c'était simple, entre guillemets, pour vous de travailler avec cette crise sanitaire?
Eh bien, finalement, pour nous, la situation, effectivement, elle a été celle que tout un chacun a connue. À la différence, c'est qu'au niveau de la mairie, nous avons été en permanence ouverts, car la mairie est quand même un lieu d'accueil du public, et je peux vous dire que beaucoup, beaucoup de personnes quotidiennement passent en mairie. Alors, nous avons travaillé avec l'équipe sur un certain nombre de dossiers, le plus sereinement possible, malgré la situation. Nous faisons avancer les dossiers, et c'est vrai que lorsque nous avons des projets, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que entre le moment où le projet est décidé comme devant être mis en œuvre et sa mise en œuvre, il se passe beaucoup de temps. Et je peux vous donner un exemple, je vais en prendre un simplement. Nous avons envisager effectivement le réaménagement du bâtiment qui accueille la bibliothèque, ludothèque et le foyer rural. Et ce bâtiment nécessite une réhabilitation, mais surtout nécessite peut-être une réorganisation. Et pour cela, nous faisons appel à un bureau d'études qui fait une étude, que nous soumettons bien sûr aux utilisateurs et qui après doit être à nouveau reprise au regard des remarques qui nous sont faites. Donc tout ça prend beaucoup, beaucoup de temps et je dirais plusieurs mois. Donc c'est vrai qu'entre le moment où on décide une opération et la mise en œuvre de l'opération, il se passe du temps. Et l'autre exemple qui était bien avant nous, c'est l'aménagement des abords de la maison du tourisme et du parc. Normalement, les travaux devraient débuter courant de cette année. Or, c'est une opération qui avait été lancée en 2019. Donc, vous voyez, le temps est très long et c'est vrai que après, il ne faut pas croire quand même que l'équipe est inactive, bien au contraire, mais il faut avoir cela en tête.
Alors, un projet qui avance, hein, commençons simplement, c'est les travaux place de la mairie. Si je ne m'abuse, il y a eu un appel d'offres pour l'ancien bar chez Proust. Où est-ce qu'on en est ?
Alors, effectivement, la réhabilitation de l'île Audite va permettre d'offrir 9 nouveaux logements pour Florac, ce qui est important. Et dans cette réhabilitation, il y a 2 locaux commerciaux. Il y en a un qui sera un bar, puisque l'équipe précédente avait vraiment, à juste titre, fait l'acquisition de la licence. Et l'autre commerce, ben, il est à, disons, à qui voudra bien l'occuper avec un projet qui sera le sien. Donc, nous avons lancé un appel d'offres et nous avons eu des réponses. La commission économie va prendre connaissance des dossiers que nous avons reçus et une décision interviendra dans les semaines qui viennent, puisque normalement, au regard de l'avancement du chantier, nous pensons que les locaux seraient disponibles à l'ouverture en juin. Donc, nous nous approchons du terme.
Vivement qu'on revoie cette place vivre.
Absolument, absolument. De même que nous espérons que un autre lieu qui était aussi emblématique puisse également réouvrir et donner de l'animation. Et lorsque le chantier sera achevé, mais complètement achevé, bien évidemment, nous aurons le retour du marché sur la place, car c'était aussi emblématique pour le marché d'être situé à cet endroit.
C'est clair. L'année dernière, tiens, puisqu'on parle de bâtiments, vous nous parliez aussi de l'île aux Puelles qui est située juste à côté de chez Martin & John.
Oui.
Où est-ce qu'on en est ?
Alors, pour l'île aux Puelles, également, c'est une opération un peu identique à celle de l'île Audite, c'est-à-dire qu'il y a un partenariat avec Lozère Habitation. Et là aussi, c'est une réhabilitation pour un nouveau délogement, un peu moins nombreux, car nous n'en aurons pas plus de 6 ou 7 maximum. Et il y aura un enjeu intéressant qui sera l'aménagement. Il y a un espace qui est... quelle sera sa destination ? Sera-t-il un petit jardin ? Un jardin privatif ? Un jardin ouvert ? Donc là, il y aura vraiment une consultation à mener. Et en ce qui concerne l'opération, nous avons procédé à un appel d'offres pour la maîtrise d'œuvre. Et l'équipe a été retenue. Et nous allons rencontrer l'équipe le 20 janvier prochain pour un premier contact et donc voir ce que cette équipe d'architectes nous proposera. Et cette opération que nous menons en liaison avec Lozère Habitation pourra eh bien, trouver un achèvement. Il faut être réaliste, sans doute pas avant 2024, fin 2024, début 2025. Mais on aura, contrairement à l'île Audite, cette consultation par rapport à l'utilisation d'un espace qui pourra être public ou privatif. Ça, nous le verrons dans les mois qui viennent.
Alors, il y a une chose importante, c'est que vous voulez donner, et d'ailleurs, vous donnez une place très importante à la démocratie participative sur tous les projets en cours. On vient de parler de l'île aux Puelles, il y en a d'autres, on va en parler des autres projets. Mais c'est important pour vous que les Floracois s'expriment, c'est une priorité même. Alors, comment ils peuvent le faire ?
Alors ça, c'est toute la difficulté, parce que il y a bien sûr le site de la mairie, qui est une possibilité d'expression. Mais ce que nous constatons au niveau de la communication, et c'est dommage que Christian ne soit pas là, car quand même il est à l'origine de beaucoup d'évolutions en ce domaine. Nous avons l'écho des rivières qui est, qui paraît 3 fois par an avec un certain nombre d'informations. Et on se rend compte que les habitants ne sont pas forcément informés suffisamment. Alors, Christian a eu cette idée de sortir cette feuille, ce recto verso qui s'appelle Torrent d'infos. Après, le problème, ça c'est facile à faire, le torrent. Mais après, il faut qu'il arrive à la connaissance des habitants. Alors, nous avons opté, faire une diffusion dans les boîtes aux lettres, c'est quand même un peu difficile. On n'a pas vraiment les moyens. Nous avons opté pour les commerçants qui, très gentiment, ont très volontiers accepté. Mais mais c'est vrai qu'on se rend compte que ce n'est peut-être pas absolument suffisant. Alors là, nous avons lancé une consultation que nous souhaitons de grande envergure, qui concerne les 6 chantiers prioritaires que nous pensons pouvoir mener et lancer, et pour lesquels nous souhaitons que les habitants se prononcent sur eh bien, les priorités que eux voient sur ces 6 opérations possibles. Alors c'est vrai que on va essayer de se mobiliser pour en mettre un maximum dans les boîtes aux lettres. Sinon, bien évidemment, pour ceux qui sont intéressés, en mairie, qui est ouvert au public tous les jours, il y a aussi bien sûr possibilité de venir et de récupérer le document ou de s'informer tout simplement, puisque nous avons un accueil, je crois, très aimable, qui permet à chacun d'avoir les réponses aux questions qu'il pose.
On va les aborder, hein, ces 6, on en a déjà un petit peu abordé, mais on va évidemment parler de la circulation un moment, puisque c'est un sujet récurrent ici à Florac. D'abord, quelle est la chose la plus difficile quand on est maire, parce que vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions, mine de rien, à la fin, c'est vous qui choisissez, et vous n'allez pas pouvoir plaire à tout le monde. Comment vous comptez prendre les décisions et les expliquer aux Floracois, Floracoises ?
Je vais vous donner un exemple. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile et que les décisions, alors je tiens à préciser que les décisions, elles sont collégiales. Hein. Vraiment, il y a des commissions qui travaillent, il y a le conseil municipal, il y a le bureau municipal. Donc les décisions, elles ne sont pas le fait d'une seule personne, en l'occurrence moi-même. Première chose. Ce que je voulais prendre comme exemple, c'est les camping-cars et la rue du Théron. Prenons cet exemple.
Ouais, c'est un très bon exemple.
Voilà. Nous avons effectivement, et au constat de tout un chacun, et pris la décision de déplacer l'aire des camping-cars afin que ces gabarits qui sont de plus en plus importants perturbent le moins possible la circulation dans le cœur de ville, hein, dans le cœur de ville, là où les rues sont étroites. Alors, ce déplacement a été diversement apprécié. Pour certains, c'est très bien, car on récupère un parking pour les véhicules de tourisme. Bon. Pour d'autres, c'est très dommage, parce que on prive peut-être d'une clientèle nos commerces de centre-ville. Bien. Donc, nous avons réuni les commerçants, nous avons évoqué pas que ce sujet-là, mais nous avons eu des avis divers et variés de la communauté des commerçants. Et puis, quelques temps plus tard, le hasard du calendrier a fait que nous avons réuni les riverains de la rue du Théron, compte tenu des travaux qui vont s'y dérouler, qui vont commencer à la fin de l'été 2022, donc en septembre-octobre, et qui vont emboliser complètement cette rue, car nous allons refaire, et ça c'est la communauté de communes qui est maître d'ouvrage, les réseaux. Et ensuite la commune fera, en tant qu'elle maître d'ouvrage, le revêtement. Nous avons réuni donc les riverains pour leur expliquer comment les choses allaient se dérouler. Et ce que nous avons entendu, c'est que pour eux, le déplacement de l'aire des camping-cars, ça a été une bénédiction. Donc les points de vue ne sont pas identiques, et c'est vrai qu'après, on essaie, avec notre vision des choses, peut-être qu'on n'a pas toujours raison, mais on essaie de prendre la décision qui sera la plus, valable pour la majorité. Et voilà, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais ça c'est un exemple. Certains pas très contents et d'autres, à l'inverse, très très contents.
Puisqu'on parle de circulation, évidemment, la circulation dans Florac, c'est toujours un peu compliqué. Fin novembre dernier, il y a eu la commission circulation qui s'est réunie, et il y a eu 3 scénarios qui ont été proposés. On est d'accord que le problème, c'est l'avenue Jean Monestier.
Absolument, c'est effectivement cette avenue qui a été, et ça il faut reconnaître que la précédente équipe municipale, après la mission aidée, a pris cette décision qui, à mon sens, est une bonne décision de mettre sur une portion, en tout cas, cette avenue Monestier en sens unique. Alors reste, justement, la fin de cette avenue. Alors, à cet égard, il y a plusieurs, vous vous l'avez dit, il y a plusieurs hypothèses. Comment faire cohabiter alors un sens unique avec les riverains? D'abord, il y a les deux commissions, ce sont les commissions travaux et environnement qui se sont réunies. Et nous allons aussi avoir l'aide des spécialistes. Donc, nous avons demandé au département qui a un secteur route aussi de nous aider pour voir quelle serait la meilleure hypothèse pour à la fois réduire le trafic, mais surtout, est-ce qu'on peut continuer cette mise en sens unique? Je crois que nous aurons une réponse dans les mois qui viennent.
Eh bien, pourvu. Et toujours pareil, là, les habitants pourront s'exprimer sur ce sujet.
Absolument. Vous savez, lorsque nous avons aussi supprimé le stationnement qui était le long de l'hôtel du parc, nous avons adressé un courrier à tous les riverains. Nous en avons adressé, je crois, plus d'une centaine, en leur demandant, en leur signalant l'objectif et en leur proposant des solutions alternatives pour le stationnement. Et nous avons eu très peu de réponses. Ceux qui nous ont répondu étaient d'accord. Ils n'ont pas forcément opté pour la solution alternative que nous proposions. Je crois qu'il faut impérativement, même si les réponses ne sont pas importantes, et vous savez, la précédente équipe, lorsqu'ils ont mis en sens unique l'avenue Monestier, ils avaient procédé aussi à une consultation et le résultat a été peu important. On ne peut pas faire du porte-à-porte et aller interviewer chaque habitant, ce n'est pas possible. Donc il y a ceux qui s'expriment, ceux qui ne s'expriment pas, et lorsqu'ils ne sont pas contents, eh bien, on essaie, à l'occasion de rencontres avec les mécontents, de leur expliquer les tenants aboutissants. On arrive à en convaincre quelques-uns, peut-être que d'autres ne sont pas convaincus. Et c'est ça la démocratie.
Tout à fait. Ça nous amène à la mobilité dans Florac, la ville a acquis le label Écomobilité, si je ne m'abuse. Oui. Et vous avez investi dans une dizaine de vélos électriques que vous mettez en location. Est-ce qu'on peut dire un premier bilan de cette expérience?
Alors ça, c'est pour l'instant, nous sommes dans une situation qui nous insupporte car les vélos n'ont toujours pas été livrés. Vous savez que...
Ah.
Eh oui, là, il y a de façon quasi mondial, il y a eu une dans notre pays, à partir de cette pandémie, eh bien, l'usage du vélo s'est beaucoup, beaucoup développé. Et les délais d'attente, dès lors qu'on fait des commandes aussi importantes, enfin, en tout cas, au-delà de l'unité, ça devient très difficile. Et d'ailleurs, je crois qu'actuellement, les automobilistes, ceux qui veulent acquérir de nouveaux véhicules, ils sont dans la même situation. Il y a une pénurie de véhicules, bon, mais ça, c'est pas notre sujet, mais aussi, donc, nous avons eu, lorsque au mois de mai, sur l'esplanade, nous avions proposé ce service, nous avions eu effectivement des inscriptions qui allaient au-delà, puisque nous avons fait acquisition de 10 vélos, nous avons eu un nombre d'inscrits qui, à ce jour, n'ont pas pu être satisfaits, puisqu'ils ne sont toujours pas arrivés.
Eh ben, vivement qu'ils arrivent.
Mais absolument, absolument. Tous les jours, nous regardons...
dans la boîte aux lettres.
Voilà, si le vélo n'est pas arrivé.
En tout cas, la mobilité douce, ce qu'on appelle mobilité douce, c'est vraiment une priorité pour Florac.
Absolument, c'est une... c'est vrai que ça participe d'une certaine évolution, qui est pas seulement floracoise, mais qui est générale. Ce qu'on aimerait d'ailleurs, et là, on va au-delà de Florac, là, on est dans le cadre à la fois de la communauté de communes, de nos collègues alentours. On aimerait fortement aussi avoir une liaison sécurisée avec les gorges. Et on se rend compte que des habitants sur Hispania, Quézac, viennent régulièrement à Florac, soit pour travailler d'ailleurs. Et ce serait bien d'avoir un cheminement sécurisé pour un trajet en vélo, bien évidemment. Alors de l'autre côté, avec la voie verte, ça va être bientôt réglé et ce sera une très très bonne chose. De l'autre côté, nous y travaillons et on espère, en liaison étroite avec nos collègues et surtout avec la communauté de communes, qu'on pourra trouver une bonne solution. Et je crois que la mobilité douce, c'est absolument indispensable. Et dans un cœur de ville comme le nôtre, ça l'est d'autant plus. Alors quand on parle mobilité douce, il y a le vélo, mais il y a aussi la marche à pied.
C'est sûr. Si vous voulez en savoir plus sur la voie verte, je vous invite, auditeurs, auditrices, à réécouter sur notre site l'interview de Guy Benoît, qui est le président du CFD à la voie verte, puisqu'elle avance vraiment, nous on la voit ici depuis nos locaux. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle aussi.
Très, très bonne nouvelle. Et nous espérons qu'effectivement, enfin, le chantier apparemment se déroule dans de bonnes conditions. Et pour nous, car je fais remarquer que nous sommes Florac Trois-Rivières et que la salle Prunet est maintenant fait partie. Et c'est vrai que pour aller à la salle Prunet, ce sera fort agréable d'y aller à partir de cette possibilité de voie verte.
Mobilité, circulation, il n'y a qu'un pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette transition, mais on va parler de la MSAP. Vous êtes la vice-présidente de la communauté de communes. Il y a évidemment ce sujet qui fait parler énormément, le déménagement de la maison des services au public. Alors, ça se discute depuis un moment. Il y a une pétition qui a été lancée donc contre la délocalisation de cette maison des services au public, mais c'est déjà paru dans les comptes rendus communautaires de juin et de septembre de l'année dernière. Dans 3 ans plus ou moins, la MSAP devrait déménager. Flore, on va essayer d'être clair et de ne pas déchaîner les passions, c'est pas le but. J'ai pensé à plein de manières de poser cette question. La meilleure forme, c'est: est-ce qu'il est possible, envisageable, que la MSAP reste dans le centre de Florac, place Paul Comte?
Écoutez, effectivement, je suis vice-présidente de la commission Solidarité, mais au-delà de ma personne, c'est vrai que la pétition a fait prendre, non pas conscience, car au niveau de ce déménagement, il y avait, c'était exprimé, effectivement, quelques réserves au regard du public qui a l'habitude d'être dans cette structure. Et au regard de la pétition, eh bien, au niveau de la communauté de communes, nous avons décidé de prendre le temps de la réflexion. Et nous aurons très prochainement une réunion qui rassemblera les deux commissions, puisque dans chacune des structures communes et communautés de communes, il y a une commission travaux. Et nous réunirons ces deux commissions avec bien sûr les éléments solidarité pour trouver ensemble la meilleure formule. Est-ce qu'on peut la maintenir en centre-ville? Est-ce que c'est possible? Tout cela sera évoqué, évalué, et je pense que nous arriverons à une solution qui pourra satisfaire tout le monde.
Ouais, parce que c'est un sujet qu'on m'a beaucoup rapporté, voilà, on parle de revitaliser les centres-bourgs, c'est vraiment quelque chose tout le temps qui est comme ça, et là on mettrait ces services-là, donc là ce serait à l'hôtel de Rochefort, c'est ça? La solution envisagée.
C'est-à-dire que la maison France Service c'est un service d'État, mais qui a été confié en gestion à la communauté de communes, aux communautés de communes, sur tout le territoire, c'est comme cela. Et dans le cadre de l'installation des services de la communauté de communes dans l'ancien hôtel du Rochefort, car actuellement les services sont éclatés, occupent une maison d'habitation qui n'est absolument pas conforme à ce qu'on peut attendre d'un service administratif tel que celui de la communauté de communes, cette opération Rochefort est absolument indispensable. La question était: est-ce que effectivement la maison France Service, qui est très différente, d'abord c'est un service qui encore une fois, c'est pas un service de la communauté de communes, il est géré par la communauté de communes, est-ce que ce service devait s'installer alors certainement de façon sans doute plus agréable dans des locaux sur l'ancien hôtel du Rochefort, ou est-ce que, compte tenu de sa destination, du public qui le fréquente, est-ce qu'il doit rester plutôt en cœur de ville? C'est vrai que les commerçants aussi ont donné leur avis, d'autres ont donné leur avis. Je crois qu'il faudra, avec, disons, en toute sérénité, voir quelle est la meilleure solution. Et je pense que nous la trouverons dans, comme je l'ai dit, en toute sérénité.
Affaire à suivre. Il est 9h sur Radio Barthas, vous êtes bien sur le 107. On fait une petite pause musicale avec Grand Corps Malade, pas essentiel. On parle culture, jeunesse, école et encore plein d'autres choses. Dans un instant, on revient.
Je vais sortir de chez moi et marcher dehors, m'arrêter un instant, regarder le ciel. Le soleil sur les toits posera ses reflets d'or. Je vais kiffer voir ça, vu que c'est pas essentiel. Je vais m'asseoir sur un banc 5 minutes avec moi, regarder les gens renaître au pluriel. Je vais parler en silence et sourire à haute voix. Je peux faire ça longtemps, vu que c'est pas essentiel. J'aurais envie d'une BO sur mon film du jour, alors je vais mettre du son dans mes deux oreilles. J'ai les poches pleines de mains et les yeux pleins d'amour. C'est un moment important, vu que c'est pas essentiel. Pas essentiel. Pas essentiel. Essentiel. Embrasser quelqu'un, pas essentiel. Ouvrir un bouquin, pas essentiel. Sourire sincère, pas essentiel. Aller au concert, pas essentiel. Se promener en forêt, pas essentiel. Danser en soirée, pas essentiel. Retrouver les gens, pas essentiel. Spectacle vivant. Après quelques mois sans beaucoup de couleurs, confinement noir et blanc, délivrance arc-en-ciel. Je vais offrir des chansons, des sourires et des fleurs. J'en aurai plein les mains vu que c'est pas essentiel. Je vais aller traquer avec les premiers venus, si pour faire la fête sans un bon potentiel. Avec la famille, les potes et des inconnus, on va lever notre verre à ce qui est non essentiel. Puisque la vie est une succession de superflus, soyons super fous et superficiels. Protégeons le futile et sur ce je conclue. N'écoutez pas cette chanson, elle est pas essentielle. Pas essentielle. Pas essentielle. Embrasser quelqu'un, pas essentiel. Ouvrir un bouquin, pas essentiel. Sourire sincère, pas essentiel. Aller au concert, pas essentiel. Se promener en forêt, pas essentiel. Danser en soirée, pas essentiel. Retrouver les gens, pas essentiel. Spectacle vivant.
Pas essentiel, Grand Corps Malade, Flore Dur, la culture en ce moment.
Ah oui, ça c'est pour la culture, théâtre, concert, c'est terrible, hein, c'est vraiment terrible.
Mmh. C'est clair, laconiquement, il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Hein.
Non, je crois que, bon, on constate, il y a quand même, il y a quand même des essais de maintenir un minimum, mais je ne sais pas quelles seront ensuite les conséquences. Elles peuvent être à l'opposé, soit une désertion de plus en plus grande des salles, soit à l'inverse, un retour. J'espère que ce sera cette solution-là qui sera la bonne, parce que la culture, c'est quand même fondamental dans notre vie.
Mmh. On va parler un peu de la jeunesse, hein, puisqu'il y a des bons projets qui vont arriver sur Florac. Alors, effectivement, Christian devait être là, lui qui est chargé de la jeunesse au conseil municipal. Mais il y aurait la création d'un pump track.
Absolument. Le pump track, c'est une structure avec des bosses et des creux et des bosses qui permet à nos gamins, mais aussi aux adultes, de pouvoir, profiter de cette installation avec soit des trottinettes, soit des skates, enfin comme ils veulent. Alors l'idée, si vous voulez, ça a été quand même le constat que au niveau du parc Erignac, en face de la gendarmerie, il y a un tout petit espace pour les jeunes, et c'est vrai qu'il est absolument très très petit, que les gamins n'ont pas beaucoup d'espace pour évoluer, et que c'est vrai que ces installations qu'on voit en milieu urbain, on s'est dit mais il n'y a pas de raison qu'en milieu rural on n'ait pas non plus, parce qu'on se rend compte que les enfants ou les jeunes, ils sont très très attirés par ce type d'activité. Et on a travaillé en liaison avec le parc national, puisque il y a les paysagistes du parc qui nous ont aidés à envisager l'implantation dans le parc Arnal, dans la partie qui actuellement est constituée de ce qu'on appelle le labyrinthe. Alors je tiens à rassurer les floraquois qui, certains, ont cru qu'on allait mettre le pump track en plein milieu du parc, que nous allions défigurer le parc. Alors qu'ils se rassurent, d'une part, il va être installé en cet endroit, donc qui est quand même, c'est pas le cœur du parc, premièrement. Deuxièmement, dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, nous avons sélectionné une équipe où il y a une paysagiste qui travaillera en liaison étroite avec le paysagiste du parc national des Cévennes pour préserver les arbres qui y sont. Et si nous devons, pour l'installation de cette structure, procéder à quelques coupes, bien évidemment, ce sera immédiatement remplacé par d'autres espèces qui seront compatibles. Donc, je pense que cette opération, nous espérons qu'elle sera achevée avant l'été.
Transition toute trouvée d'ailleurs, puisque vous l'avez abordé, donc le parc national et sur ce parc Arnal, il va y avoir vraiment de l'amélioration de partout, notamment sur les entrées et aussi sur le théâtre de verdure.
Alors l'étude qui a été menée justement, c'est dans le cadre de la commission environnement, celle qui est animée par Martine Bourgade, notre adjointe, c'est une et en liaison aussi d'ailleurs avec la commission culture qui maintenant est animée par Guillaume Martin. C'est une vision globale. Alors, il y a le parcours de mémoire qui, bien évidemment, non seulement demeure, mais on nous a demandé de le restaurer un petit peu, car avec le temps, le bois s'est un petit peu, affadi. Donc, on interviendra. Et puis, il y a cette étude sur le théâtre de verdure. Le constat qui est fait, mais qui est, je dirais, que tout le monde peut faire, c'est qu'il est bien dommage que l'été, cet endroit qui est absolument très 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 agréable ne soit pas plus utilisé, mieux utilisé, notamment lorsque la météo ne permet pas de maintenir un spectacle en plein air. S'il y avait un minimum de couverture, ça pourrait quand même être une très très bonne solution. Donc les deux commissions, environnement et culture, travaillent à cela. Et il y a effectivement ce projet qui pourrait nous remettre le parc, et puis surtout que ce parc devienne un lieu fléché, un lieu où quand on y entre, on sait qu'on entre dans le parc. Car actuellement, quand on y entre, on ne sait pas très bien comment, où on est. Si on voit les parcs en milieu urbain, quand on rentre dans un parc, on sait qu'on rentre dans le parc. Chez nous, alors vous me direz que tout est parc. Il suffit de lever les yeux, on a un parc immense autour de nous. Mais dans le cœur car quand même il est en cœur de ville, on aimerait bien aussi qu'il soit bien fléché et bien signalé.
Puisqu'on parle d'aménagement, j'aurais entendu dire que le monument aux morts qui est pour l'instant sur l'esplanade déménagerait.
Alors c'est effectivement, nous avons rencontré il y a déjà un certain temps les anciens combattants qui avaient en son temps, il y a déjà pas mal d'années, je crois que c'était le regretté monsieur Saint-Léger qui l'avait évoqué, trouvé que l'emplacement du monument aux morts n'était pas forcément un lieu tout à fait... On pourrait l'envisager ailleurs. Je crois qu'à l'époque, d'ailleurs, ils l'avaient un peu envisagé dans, justement, le parc Arnal. Le problème, c'est l'accès. Et nos anciens combattants vieillissent. Et donc, accéder au parc Arnal, c'est moins évident. Alors, ce qui a été envisagé avec eux, en concertation avec eux, c'est que lorsque les travaux qui vont restructurer les abords de la maison du parc et du tourisme et qui vont déplacer le boulodrome vers Arbuciès et qui d'ailleurs se terminera cette nouvel aménagement. Nous n'aurons plus de véhicules stationnés sur cette voie qui est le début de la voie verte, je le rappelle. Mmh. C'est le top départ de la voie verte. Nous aurons le boulodrome qui se terminera par un nouveau jeu pour enfants. Ce qui fait que celui qui est actuellement au square Erignac ne sera plus utilisé, car nous pensons qu'il serait plus intéressant d'envisager un autre jeu d'enfants au Jouquet, car il y a quand même pas mal d'enfants par là. Et en liaison avec Lozère Habitation, c'est un projet qui est tout à fait réalisable. Donc nous en aurions un au Jouquet, celui d'Arbuciès, et puis nous allons essayer de voir, toujours avec Lozère Habitation, ce qu'on pourrait faire à la Croisette, sachant que l'espace est moindre. Donc ça veut dire que lorsque tout cela sera fait, nous récupérerons le parc Erignac. Une partie restera sans doute en parc avec table de pique-nique peut-être, mais là où il y a ce qui sert aux enfants comme skate, ils utilisent leur skate, c'est plutôt là qu'on installerait le monument aux morts. Mmh. Et les anciens combattants trouvent que c'est un lieu qui leur convient bien, en face de la gendarmerie où il y a une possibilité de stationnement à l'occasion des cérémonies. Donc effectivement, c'est une possibilité, et en tout cas nous avons l'accord et l'encouragement de nos anciens combattants.
On a parlé des parcs pour les enfants, il n'y a qu'un pas pour parler justement de l'école primaire qui va elle aussi être rénovée.
Alors c'est vrai que Christian a été un des, disons, Christian Rameau, donc l'adjoint qui a en charge, entre autres, les affaires scolaires. Il passe beaucoup de temps dans cet établissement. Je rappelle quand même que lorsque nous avons été installés, nous avons tout de suite installé justement dans l'école la LSH, c'est-à-dire le centre de loisirs, et qui permet quand même d'avoir un lieu beaucoup plus convivial, et en tout cas comme tous les centres de loisirs en France et en Lozère se déroulent dans les écoles. Donc il y a beaucoup travaillé, et en liaison bien évidemment avec les enseignants et les directeurs, il est apparu que les deux bâtiments, école primaire et école maternelle, nécessitent vraiment une réhabilitation. Et pour cela, tout à l'heure je disais que les projets sont très longs. Nous avons fait appel au CAUE, et l'architecte qui a bien voulu faire ce travail a fait un remarquable travail sur, d'une part, les deux écoles, sur une nouvelle entrée qui éviterait ce qu'on connaît actuellement comme, embouteillage aux abords de l'école, et surtout qui a aussi travaillé sur la place Saguenay, qui actuellement est une place, c'est un parking, et en lui redonnant une autre dimension, et peut-être aussi une liaison avec le centre d'accueil des Cévennes, ce qui pourrait être, je rappelle quand même que le centre d'accueil des Cévennes, au départ, c'était quand même pour accueillir des classes vertes. Et on se dit que ce serait pas mal de revenir à cette situation. Et eh bien oui, les écoles, nous avons eu un très beau projet du CAUE qui maintenant, bien évidemment, nécessitera d'être validé. Et puis aussi, nous verrons comment nos différents partenaires, l'État, la région et le département, pourront nous aider dans cette opération de réhabilitation. Et nous comptons quand même sur, entre autres, le département, mais aussi France Relance, parce que nous allons faire de la réhabilitation thermique, et donc qui rentre tout à fait dans le plan France Relance.
Et végétaliser la cour, peut-être aussi.
Alors, pour la cour, là, ça fait un petit moment que les deux écoles ont travaillé. Alors, il y a la végétalisation, mais il y a aussi un nouvel aménagement. Donc, les deux écoles ont travaillé pendant, au printemps, tout au printemps, pour faire des projets, car la cour, elle va être agrandie sur l'espace qui mène au dojo. Puisque cet espace est un espace municipal. Et la demande qui a été faite, c'est de refaire complètement la cour. Et c'est d'ailleurs à partir de cette démarche qui nous a été fortement demandée qu'on est allé au-delà de simplement réaménager la cour et l'agrandir pour revoir complètement les deux bâtiments.
Puisqu'on parle d'école, on avait fait il y a quelques années sur Radio Bartas un plateau sur l'alimentation en collectivité. Il y a eu un gros boulot de fait sur l'alimentation en restauration scolaire ici à Florac. Qu'en est-il précisément ?
Alors absolument, la restauration, d'abord il y a la loi Egalim qui est quand même un objectif que nous devons respecter, et c'est les circuits courts, les produits locaux, les produits bio, et c'est vrai que ça ne s'improvise pas ce genre de réforme, car il a fallu bien évidemment d'abord le personnel de cuisine était tout à fait volontaire pour évoluer dans les pratiques. Et puis aussi, il y a eu des formations qui ont été dispensées pour voir comment on peut aussi travailler autrement les produits. Alors on sait que les enfants, si on leur demande ce qu'ils aiment manger, réponse, elle sera assez évidente. Donc pour leur faire goûter d'autres choses, il faut effectivement faire un travail qui est un travail de cuisine, justement. Et c'est vrai que aussi utiliser les produits locaux et les produits frais, on est maintenant dans un score qui est assez remarquable. Et moi, je remercie vraiment les deux cuisiniers qui ont pris à cœur de s'intégrer dans ce processus qui est un processus, je dirais, tout à fait positif pour, d'une part, travailler sur les produits locaux, les circuits courts, et puis peut-être aussi améliorer au niveau des enfants l'apprentissage au goût.
Il y a quelque chose qui vous révoltait il y a quelques années, c'était que les enfants ne payaient pas le même prix dans les cantines. Est-ce que ça a changé, ça ?
Alors, là encore, ce qu'il y a, c'est que nous avons bénéficié de la tarification sociale de la cantine. Et ça, c'est en fonction des quotients familiaux des familles. Et l'État intervient, nous aide. Et ce qui permet aux personnes, aux familles dont le quotient est, parmi les plus bas, de n'avoir à acquitter qu'un euro. Et je dois dire que on a constaté au niveau d'une réunion du CCAS, du comité des offres sociales, que cette réforme, elle est tout à fait vertueuse, parce que nous avions une famille qui était en grande difficulté jusque-là pour payer la cantine. Ils n'arrivaient pas à quitter le montant. Et depuis qu'il y a la tarification à 1 euro, ils payent le montant. Donc ça veut bien dire que c'est une tarification sociale qui est importante et qui était nécessaire.
On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Juste avant, évidemment, tous ces projets, ça demande de l'argent. Alors, est-ce que tout va être possible ? Est-ce que les comptes de Florac vont bien ?
Ah, les comptes de Florac, ils vont bien, mais dans toutes les opérations, si vous voulez, il y a des emprunts à réaliser, il y a des aides à demander, donc je l'ai un peu dit tout à l'heure, les aides, les cofinanceurs, c'est l'État, c'est la région, le département, ce sont les crédits européens à travers les fonds leaders, et en général, les opérations, elles se réalisent avec un reste à charge pour les communes de 20% de... Donc, et c'est par rapport à ces 20% qu'il faut que nous soyons vigilants sur la capacité d'emprunt et sur la durée des emprunts.
J'ai cru que tu levais la main, Corto. Ce n'est pas grave. Et il y a aussi, je voulais vous poser une question sur le collectif La Pompe, hein, puisqu'ils ont déménagé à l'ancien tribunal. Mais juste avant les fêtes, le département parlait éventuellement de mettre le centre médico-social. Où est-ce qu'on en est ?
Alors, c'est très simple. Là aussi, nous avons été très, très déçus parce que nous pensions que le tribunal dont le
qui appartient au département.
Le département est propriétaire et dont le département voulait se débarrasser il y a quelques années de cela. Nous avions imaginé que nous aurions pu l'utiliser comme, entre autres, maison des associations, puisque nous pensons qu'une maison des associations multisites est une bonne réponse sur Florac. Et nous avions d'ailleurs fait un travail pour essayer d'envisager le réaménagement du tribunal. Et nous avons appris, premièrement, que ça je le comprends, que les travaux qui vont être menés au centre social du département, qui est ici, pas très loin d'ici d'ailleurs, au cours de cette année, nécessitait une opération tiroir pour le personnel. Donc ça, je le conçois très bien. Mais au-delà, on nous a fait savoir que le bâtiment, on ne pourrait pas l'utiliser. Il était question d'un bail emphytéotique à notre profit pour pouvoir, justement, l'aménager. Et apparemment, le département ne le souhaite pas et aurait sans doute d'autres projets que je ne connais pas.
Donc La Pompe doit partir du tribunal.
Alors La Pompe, lorsque ils ont été assurés de 6 mois de possibilité d'occupation, mais lorsque le chantier va démarrer et que le personnel devra être déplacé provisoirement, eh bien La Pompe devra effectivement quitter les lieux, ce qui nous navre beaucoup.
Ouais, dur hein, pour ce collectif qui pourtant fait belles choses. On les salue, on les embrasse. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la ville de Florac pour cette année ?
Eh bien, on peut souhaiter que, au-delà de ce que tout le monde attend avec impatience, c'est-à-dire la fin de cet épisode douloureux de pandémie et de situation sanitaire qui nous empêche de vivre comme on le souhaite, eh bien, moi, ce que je souhaite, c'est que Florac retrouve sa joie de vivre, ses animations et que, avec les associations, nous ayons la possibilité très très vite de repartir dans de nouvelles aventures, et je crois que tout le monde attend cela, et en tout cas nous on sera au rendez-vous, et dès que la situation le permettra, dans tous les secteurs culturels, sportifs et autres, on sera au rendez-vous pour donner à notre ville cette convivialité qui fait un petit peu d'elle une ville où il fait bon vivre.
C'est sûr. Pour être tout à fait complet, auditeurs, auditrices, sachez que le 27 janvier prochain, il y aura une journée vaccination par les pompiers, c'est bien ça ?
Au centre, à la salle des fêtes, donc le centre de vaccination, ce sera un lundi, et l'ARS organise une journée de vaccination importante grâce à l'intervention des pompiers. Peut-être y aura-t-il la Croix-Rouge, mais en tout cas, le rendez-vous a été proposé pour le 27 janvier, le lundi 27 janvier.
Nous sommes complets, merci beaucoup Flore. On se revoit dans un an, ça vous va ?
Ça me va très bien.
C'est la fin de cette matinale. Merci à toutes et tous de nous suivre. Merci, je vais y arriver. Tu vois, ça fait 10 jours que j'ai pas dit ton prénom.
Obligé.
Merci Corto. Merci encore à François qui m'a aidé à préparer cette interview. Merci beaucoup à Véro. Vous êtes bien sur le 107. Passez une excellente journée. On se quitte avec Ulysse, chanté par Ridan. Bonne journée, restez sur le 107. À bientôt, ciao.
A fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là, quiconque il a toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison reverrai-je le clown. De mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison, mais quand reverrai-je ? je fumais la cheminée. Et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains, le front tout d'acier. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le Mont Palatin, et plus que l'air marin la douce Angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? J'ai traversé les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, retranché dans une cale et mes vieux tympans percés, pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. Quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison? Mais quand reverrai-je?